Rebonjour chers auditeurs, musique, etc. Deuxième partie, j'accueille dans les studios trois des membres du groupe Donaman. De ma gauche à ma droite, il y a Arthur le batteur, il y a Geoffroy le bassiste et François, c'est ça ? Francis, pardon, le chanteur-guitariste du groupe Donaman. Donc il y a Donaman, il y a trois albums. Hein.
Oui.
En tout, on va écouter des morceaux de différents albums normalement, mais peut-être avant de présenter Donaman, depuis quand, un peu faire un historique du groupe, du projet, depuis quand ça existe, voilà, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes connectés.
Eh ben, en fait, on s'est rencontrés, nous, très tôt, puisqu'on est amis d'enfance. Enfin, Arthur et Francis sont frangins. Et nous, on se connaît depuis la maternelle, donc à peu près au moment où on est conscient de notre entourage et parce que nos parents se connaissaient. Et puis, on a vraiment grandi ensemble, d'abord à travers la jeunesse et puis l'école, etc. Puis après, à travers la musique, en fait, où on s'est retrouvés quand on était ados sur plein de trucs. Donc c'est un projet qui remonte à loin. Et Donaman, sous cette forme-là, ça fait 8 ans que ça existe avec ce trio-là, là, actuellement.
Et donc vous êtes tous les trois dans le groupe
là. Oui, tout à fait.
Et Donaman, enfin c'est une question un peu bateau, mais le nom du groupe qui est un peu énigmatique, je trouve.
Alors en fait, il vient d'un morceau de l'album Spiderland de Slint, qui est un groupe américain des années 90 en fait, et c'est le nom d'un morceau d'un des albums en fait qu'on aimait bien, qui est justement un petit peu énigmatique, moi je trouve. Et donc on trouvait que ça sonnait pas trop mal, et c'est toujours un peu difficile de trouver un nom qui reste. Donc on a trouvé, enfin. Pour le moment, ça tient la route depuis 9 ans.
Donc, Donaman, et pour le style de musique, on parle de quoi pour ce que vous faites, enfin, c'est bien que les artistes adorent qu'on leur
ouais,
fixe c'est... des étiquettes.
ma question préférée.
On va le découvrir au fil de l'émission.
Ouais, c'est ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus. Ça s'entend beaucoup plus à travers la musique, mais il y a pas mal d'éléments différents en fait. On est sur une base forcément rock avec un trio assez classique, mais il y a des touches de noise rock, il y a de la folk, il y a de la pop. Il y a quand même pas mal de choses assez différentes. On ne s'est jamais vraiment posé sur un style de prédilection. On laisse venir les choses. Et puis, quand une idée part, en fait, le morceau se construit de lui-même. Et à aucun moment, il y a une volonté en fait, de faire un groupe de telle chose, telle chose, telle chose. En fait, on se laisse un peu porter par ce qui vient, quoi.
On développera le travail de composition un peu plus tard dans l'émission, puis on développera tout ça. Je propose peut-être qu'on écoute un premier morceau pour que les auditeurs se fassent une idée de ce à quoi ressemble votre musique. Donc c'est Donaman, et on va écouter quel morceau ?
Nothing, c'est la première qui ouvre le dernier album du coup. Voilà.
Donaman.
Merci.
Donnaman sur du canu dans musique, etc. avec le titre
Nothing.
Ça figure sur votre dernier album en date. Vous voulez évoquer ce titre, de quoi il parle, comment vous avez travaillé pour le mettre en place, celui-ci.
Là, je me souviens plus. comment on l'a mis en place. De quoi il parle, je sais plus trop non plus. Sur le coup, ça devait me parler. Maintenant, ça m'évoque peut-être moins de choses, mais après, on prend toujours autant de plaisir à la jouer, donc c'est que ça doit encore fonctionner, quoi.
Ouais, elle fait partie de votre set.
C'est des premières en règle générale, quoi. Et après, comment on l'a mis en place, en règle générale.
On peut parler de la composition directement. J'avais un peu censuré Geoffroy tout à l'heure.
sur la compo.
Comment vous travaillez, ouais.
En général, il y a toujours une idée. Principal, à une époque on fonctionnait pas mal en jam, on avait tendance à jouer en improvisation, maintenant on le fait vraiment de moins en moins, et il y a souvent une idée qui vient de Francis, donc principalement guitare chant, et puis en fait on brode au fur et à mesure des répétitions, quand on se met dans des phases de composition en fait, on fait tourner ce qu'on a pour le moment pour comme idée de morceau en fait, et puis les choses se rajoutent au fur et à mesure, on arrive sur des morceaux souvent assez longs, qu'on finit par dégrossir, enlever en fait ce qui nous semble être de trop dans le morceau, etc., etc., mais c'est assez ça se fait je crois que ces derniers temps c'est arrivé quand même pas mal de fois que ce soit spontané, que ça se fasse vite, mais en général ça prend quand même pas mal de temps pour trouver vraiment l'équilibre dans le morceau, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on veut faire tourner les choses, etc. Donc.
Et qui intervient à quel moment? Donc en fait c'est Francis qui amène le premier geste, c'est ça?
Et en général oui, l'idée principale vient souvent d'une ligne de guitare et de chant principalement. Après c'est arrivé que ce soit une ligne de basse ou un pattern de batterie, ça arrive également. Mais après c'est pas évident de. Voilà, une fois que l'idée est lancée, en fait c'est vraiment un travail de groupe. Il n'y a pas vraiment de rôle défini. Les choses viennent naturellement en fait. On se donne pas un rôle sur. J'ai pas l'impression. En tout cas, je sais pas pour vous, mais voilà. Non, ça se fait tout seul en fait. On se dit tiens, la batterie elle est cool. On peut partir là-dessus, la ligne de basse est bien, tiens, continuons, et puis...
Ouais, mais après, c'est délicat de partir juste sur un pattern de batterie ou de basse, ou même des fois juste un motif de guitare tout seul. Quand je trouve quelque chose, si j'ai pas une ligne de chant qui me vient automatiquement avec la guitare, souvent c'est que ça va pas fonctionner, je sais pas, en général, je sais quand ça va marcher, quand ça va pas fonctionner, ouais.
Et puis vous disiez que vous rapetissiez les morceaux, sur les albums vous avez des morceaux quand même assez longs en général, il y a une ambiance qui prend le temps peut-être une impression.
Soit ils sont pas très longs, soit ils sont extrêmement longs, quoi, mais il y a pas en demi-mesure. Je sais pas, on a souvent droit à ce reproche-là quand on fait des concerts, on nous dit souvent que des fois il y a des moments un peu des climax dans le morceau, des moments qui poussent un petit peu.
C'est quoi un climax?
Un climax c'est un peu un crescendo, disons le moment un peu le point d'orgue du morceau. Et on a souvent droit à la réflexion, pourquoi vous faites pas durer ça plus longtemps, ça s'arrête trop tôt, on n'a pas le temps de se mettre dedans. Mais je sais pas, nous c'est pas naturel pour nous quand on a bien coupé un peu l'herbe sous le pied assez tôt, quoi. Moi quand j'écoute un morceau que j'adore, j'aime bien quand il y a seulement un passage des fois très très court qui me fait vraiment vibrer, mais plus court il est, plus ça me plaît, parce que du coup j'ai envie de revenir sur le morceau depuis le début pour l'écouter à nouveau, quoi. Donc j'aime bien, ça entretient un peu une aura, un peu de mystère, il y a quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, c'est une manière de garder l'attention, je trouve, qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai qu'on aurait peur de se perdre si on restait sur ces phases qui sont quand même plus, j'arrive pas jusqu'à dire violentes, mais en tout cas en volée, j'aurais peur que, nous, ça nous lasserait très vite. Donc en fait, ça se vient naturellement au moment où on le fait, quand on compose, quoi. Et on sent quand, on est assez raccord sur le fait que la longueur est, quand c'est trop long, et on le sait tous les trois, et ça se fait assez naturellement aussi, quoi.
Et ça se passe en répétition, c'est pas ou c'est des morceaux que vous testez sur scène et en fonction de la réaction du public vous ajustez, ça a déjà eu lieu ou
on n'est pas très réceptif aux réactions. Enfin en général quand on présente le morceau sur scène c'est qu'il nous plaît et qu'il est du coup on le rôde sur scène, mais si on le présente sur scène c'est je crois que c'est jamais si ça a dû arriver une fois qu'on joue un morceau sur scène qu'on n'a pas gardé. mais c'est hyper rare. Quoi. En général, c'est qu'on est content du résultat, il n'y a plus qu'à le jouer, mais on n'attend pas une réaction particulière pour savoir si on le garde ou pas.
Ouais, parce qu'il y a des groupes qui rôdent leurs morceaux. Enfin, c'est peut-être dans d'autres styles de musique, oui, c'est quand même un peu plus savant, c'est une musique quand même assez savante, enfin, il me semble-t-il. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai.
Ouais, j'ai un peu de mal à savoir ce que ça veut dire. Savant,
je ne saurais pas le définir.
Tu veux dire technique, non
Oui, voilà, ouais.
Off, non, on n'est pas non plus des bêtes de technique. Ouais. Non, après oui, on les rôde pour nous sur scène, mais par contre, je pense qu'on sera jamais. C'est pas parce que le public va, je sais pas, nous faire des réflexions sur la durée du morceau, quoi que ce soit, qu'on va l'agencer pour plaire en fait. Enfin, on voit que ça nous plaise à nous déjà, quoi. Donc après, on est quand même réceptif aux remarques, mais bon.
Vous jouez ce que vous aimez.
Oui, ouais, en priorité, quoi.
Je propose qu'on écoute un deuxième morceau peut-être. Donc c'est toujours sur le dernier.
Je vais passer Glory du coup.
Et comment s'appelle le dernier album, pardon?
Il s'appelle Monster Lock.
Et donc on va écouter.
On va écouter Glory de Monster Lock.
Don Aman.
Thank you.
Don Ammann, donc avec une chanson extraite de leur dernier album qui s'appelle Monster Lock, c'est ça. Et donc ça, c'était le titre.
Glory.
On peut évoquer, c'est ma question qui va revenir après chaque morceau, hein, évoquer ce titre. Si vous avez des souvenirs de comment il est né, et puis de.
Ouais.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être anglophones, de quoi il parle en fait.
Bah, je l'appelle même pour les anglophones, parce que ceux qui sont pas anglophones, il y a peut-être trois phrases dans le morceau, donc c'est pas non plus une complexité. En fait, j'avais découvert une technique de guitare, ce qu'on appelle de guitare préparée. C'est quand on utilise la guitare un petit peu autrement que comme elle est censée être jouée, quoi.
Bah, je connais, enfin, des musiciens m'ont parlé de piano préparé.
Ah, mais je connaissais pas.
Ouais. Mais de guitare préparée, tu peux expliquer ce que c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui savent pas, en fait.
Bah, c'est ne pas jouer c'est quand on prend une guitare, mais qu'on n'en joue pas de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'en pose pas des accords, on gratte pas. En général, ça peut être de plein de façons différentes, mais on peut la bidouiller avec des outils, avec des perceuses, on peut démonter les micros en temps réel, enfin, c'est. C'est surtout pour faire. C'est plus pour en tirer du son qu'une mélodie ou. Ouais, c'est plus bruitiste qu'autre chose. Et en fait, j'avais juste découvert une technique où on pouvait coincer un bout de plastique ou n'importe quoi entre les cordes. Et du coup, on a un petit peu ce son de cloche, un peu particulier. Et puis j'ai trouvé une ligne de guitare là-dessus. Après, ça s'est juste emboîté naturellement pour le reste.
Juste, tu parlais d'aspect bruitiste, mais on peut dire que l'album, le dernier album finit vraiment sur un souvenir, en tout cas sur.
Oui,
on aura le temps d'écouter, mais.
Ah bah, on voulait la mettre. On mettra celle-là du coup, alors ouais. Parce que du coup, la fin peut pas plaire à tout le monde, mais.
Moi, j'adore la fin de l'album, en fait, mais.
C'est la première fois qu'on l'entend, ça.
Ah bon, c'est vrai.
Oui. En fait, on a eu très peu de remarques en fait sur cette fin de disque qui est un peu particulière,
pas très positive justement.
Ah bon. Ouais. Ah, c'est étrange.
Parce que moi, on m'a déjà dit, ouais, j'aime pas trop la cymbale qui dure pendant 15 plombes à la fin du disque. En fait, c'est pas une cymbale, c'était en 2011 ou 12, je sais plus.
Ouais, 2012, je crois.
Je suis parti en Allemagne avec Geoffroy. On avait été visiter un espèce de château qui faisait musée avec plein d'installations un peu soniques et il y avait une espèce de performance, un type qui balançait un anneau en cuivre, je pense en métal, sur une autre plaque et du coup ça fait ce... L'anneau en tournant fait un bordel pas possible et on l'avait enregistré, mais on avait ça sur un disque dur depuis des années. On voulait l'exploiter un jour, on savait pas où l'utiliser. Et là, on l'a sorti en studio. Mais...
Ouais, pour clore, le disque.
Mais on aime bien, on n'est pas du tout, enfin en tout cas dans le jeu, je pense pas qu'on soit très, très nerveux ou très bruitiste, mais on aime bien des points très. Des trucs un peu crado qui viennent comme ça d'un seul coup. Et ça plaît pas à tout le monde, justement, ce côté-là. Quoi.
Moi, j'aime bien.
Attendu.
Du coup, vous voulez qu'on l'a évoqué, vous voulez le.
Ouais, on peut la mettre, du coup. Ouais. Ça serait un bon moyen d'illustrer ce qu'on vient de dire. Quoi, du coup, ouais.
Donc, Don Ammann, et c'est le morceau qui.
Il s'appelle Schwindler, ça veut dire imposteur en allemand. Et du coup, le sample de fin est tiré d'une séance qui s'est passée du coup, en Allemagne aussi. Donc,
Don Ammann.
Gut, jetzt würde ich gerne wahr machen, was ich versprochen habe. Und zwar, ihr dürft da hinlegen und ich spiele euch ein Konzert.
Voilà, Don Amann avec le morceau qui clôt leur dernier album Monster Lock. Et donc ça, c'est avec cette fin si particulière.
Parti pris, ouais.
Pour le coup, bruitiste, mais ce qu'on retrouve pas forcément, peut-être par touche, dans d'autres morceaux que vous avez composés. Mais là, c'est vraiment le... Et pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous avez décidé à faire ce pari de finir un album de cette manière-ci?
Comme on disait avant, en fait, ce petit séjour qu'on avait fait en Allemagne, en fait, on avait enregistré beaucoup de choses dans justement de ce château-musée. Qui était basé en fait sur les cinq sens, sur des expériences sensorielles, et il y avait une salle en fait avec plein de gongs, avec des cristals bâchets. On avait enregistré, on doit avoir une heure d'enregistrement de plein de trucs, et on voulait utiliser ça depuis longtemps, mais on savait pas comment, parce qu'on n'est pas trop, on n'est pas du genre à travailler sur les ordi pour faire des montages, ce genre de choses. Et on s'était dit qu'on pouvait utiliser à un moment en fait un de ces éléments, peut-être pour le disque, et c'est ici qu'il s'est trouvé le plus naturellement, quoi. Alors après, oui, il y a eu peut-être le parti pris de le mettre assez longtemps à la fin, mais bon, il y a un petit côté blague. Après, ça n'a pas non plus été hyper réfléchi et ultra, calibré. On a laissé venir le truc, et puis tout simplement, quoi.
Et quand vous jouez le morceau sur scène, il y a cette fin-ci.
Non, sympa avec les gens. Non, on finit le morceau là où il s'arrête naturellement. On pourrait effectivement, mais bon, il faudrait lancer un sample, c'est un peu. Ou il faudrait qu'on achète le truc au Schloss, hein, mais.
Et le parti pris de finir l'album sur ce morceau-là, mis à part la fin qui est la fin brutiste, de clore un album sur une chanson comme ça.
Bah, c'est le côté instrumental, je pense qu'il y a le. C'est pas comme. Quand il n'y a pas de chant, je pense qu'on peut plus facilement peut-être se projeter dans le morceau, mettre un petit peu ce qu'on veut de nous-mêmes dedans, quoi. Donc je pense que ça amène peut-être vers d'autres horizons. Il y a peut-être un côté un peu. Je trouve qu'il appelle un peu plus à la rêverie, ce morceau-là. Donc je trouve ça cool pour terminer un album, quoi. C'est. Ça laisse le choix, j'ai envie de dire, quoi. Donc,
Moi, je trouve que c'est une belle. J'aime bien son côté ouverture, justement, vers autre chose, un peu qui diffère un petit peu de ce qu'on faisait avant, avec des sonorités un peu différentes. Donc, ouais, moi, je suis content que ce soit celle-là qui finisse le disque.
Cela dit, dans l'ensemble de vos morceaux, c'est quand même assez basé sur le rêve, votre musique. Enfin, je sais pas, c'est l'impression personnelle. Hein. Après, ouais. Peut-être que.
Je me suis jamais trop posé la question en ce sens-là, mais enfin, en tout cas, si les gens trouvent que ça s'y prête, oui, il y a un petit côté contemplatif, effectivement. Enfin, moi, c'est plus le terme que j'utiliserais, ouais. Mais oui, pourquoi pas, effectivement, un petit côté onirique.
Qui invite à la rêverie, c'est ce que je.
Ouais, bah, très bien. Ça me va.
C'est une impression personnelle. Je laisse le soin aux auditeurs de se faire une idée.
Tout à fait.
On va changer d'album. On va faire dans l'ordre chronologique, mais
inversé.
Inversé, voilà. Merci de m'aider. Et donc, l'album s'appelle
Starving.
Et donc, on va écouter la troisième chanson.
Qui s'appelle Blitzkrieg.
Voilà, et c'est Don Amann sur Radio Canu.
Honey, how's the bell? Honey, how's the good times? Honey, how's the glue? Honey, how's the bell? Honey, how's the good times? Those who want to say no. Moving down the well, living in the same tide, singing out of tune. Moving down the well, living in the same tide, my career is gone. Oh,
Donnerman sur Radio Canu avec le titre Blitzkrieg, extrait donc de leur deuxième album qui s'intitule
Starving.
On peut évoquer cette chanson-ci, où il y a plus de voix que la précédente. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, je fais des comparaisons. Comparaison n'est pas raison, comme on dit. Mm. Plus de chant, en tout cas.
Ouais.
Plus de chant, ça.
Et de quoi, bon, on peut, ma question aussi, de quoi ça parle
pour ceux c'est pareil, je me souviens plus trop de. Parce qu'en fait, quand j'écris les textes, c'est plus des associations d'idées. Donc sur le coup, ça me parle, mais après, je sais plus trop ce que je voulais dire. Mais je me souviens juste qu'il y avait un thème au ukulélé que je traînais.
C'est le premier au ukulélé, hein, je crois.
Mmh. Ouais. Mmh. J'avais un thème au ukulélé, une espèce de blues un peu dégueulasse là, que je traînais depuis longtemps et que je jouais simplement pour faire le con, je crois. Et puis finalement, on l'a quand même fini par l'exploiter, quoi. Donc, et moi, j'aime bien ce morceau, quoi. Je trouve que c'est un de nos meilleurs, enfin, d'après moi, quoi. Il y a un contraste assez évident. Je pense que c'est peut-être un des premiers morceaux où on a vraiment eu des contrastes aussi marqués entre le côté un peu plus doux et mélodieux et puis les gros points d'orgue un peu noisy. Là, du coup, c'est assez flagrant dans le couplet là, avec les grosses pêches basse batterie, quoi.
Et du coup, donc il y a trois albums et sur scène vous piochez, vous continuez à piocher dans les trois albums pour constituer votre set.
Là, en ce moment, on a tendance à beaucoup jouer de morceaux du dernier parce qu'il est sorti il y a un an. Là, on a fêté son anniversaire. Enfin, on l'a pas fêté, mais il a eu un an il y a une semaine à peu près. En général, en attendant, puis on aime bien surtout jouer nos derniers morceaux, puis on continue à piocher dans les deux premiers. Oui, c'est régulièrement. Il y a quelques morceaux qu'on joue quasiment plus. Effectivement, certains qu'on joue plus du tout, mais on continue quand même à jouer ceux qu'on aime bien, enfin, ceux qu'on préfère des anciens albums.
On le répétera à la fin de l'émission quand on fera votre communication de façon bien synthétique, mais à noter que les trois morceaux sont notamment, alors, je sais pas s'ils sont disponibles à l'heure, moi je les ai écoutés sur Bandcamp, il y a les trois albums sont présents sur Bandcamp.
Oui, ils sont en écoute intégrale sur Bandcamp et puis en téléchargement libre, donc.
On les trouve sur les autres plateformes.
Pas le premier, mais les deux suivants, on les a sur toutes les plateformes
de streaming habituelles. D'accord. Donc là on poursuit sur le deuxième album et donc on va écouter la septième chanson
qui s'appelle Nature Morte
et donc c'est Don Aman.
have to change? Just give up all the men. Why would you have to change?
Voilà, Don Amann avec le titre Nature Morte, extrait du deuxième album, donc...
Starving.
Voilà. Vous voulez, comment vous avez travaillé sur ce morceau-ci, Don Amann?
Je crois que j'ai plus aucun souvenir de... C'est bizarre, il y a plein de morceaux, en fait, où on est dedans pourtant et on y passe beaucoup de temps, mais une fois que le morceau est terminé, au fur et à mesure, la période de composition s'efface, mais j'ai pas...
Je crois que j'avais juste trouvé la ligne de guitare en faisant la vaisselle. Après, du coup, au début, elle avait un côté un peu plus. Pas plus punk, mais c'était joué plutôt.
C'était plus bourrin,
c'était,
ouais.
C'était joué plutôt avec des power chords à la guitare, plutôt. Et puis après, elle est devenue un peu plus fine. Et celle-là, on l'avait enregistrée un peu comme un morceau, j'ai envie de dire presque bouche-trou pour ce disque-là, parce que. On n'était pas hyper choyé de l'enregistrer, je crois, mais...
Mais en fait, on avait du mal à la faire sonner, il me semble.
Et finalement, c'est, pour moi, c'est une des meilleures du disque, au final. Donc, je trouve que c'est un des morceaux qu'on a le plus de mal à faire sonner sur scène. Je sais pas trop pourquoi, peut-être par rapport au tempo. Mais du coup, voilà, celle-là, on est vraiment content de l'enregistrement, quoi.
On a parlé un peu de la scène, on n'a pas parlé de l'enregistrement. Alors il y a trois albums, donc on a commencé par le dernier, on vient d'écouter deux morceaux du deuxième. Comment vous travaillez en studio, pour l'enregistrement en tout cas, comment ça se passe pour Don Amann?
Bah c'est assez rapide, oui et non, parce que du coup les morceaux on les bosse quand même longtemps avant et puis on les rôde sur scène du coup quoi, et quand on a déjà un paquet de morceaux bien définis qu'on joue depuis longtemps, on fixe une date et on décide d'y aller quoi. Là pour le dernier disque on a quand même fait une résidence avant qui était bien productive du coup avant d'entrer en studio, et le dernier disque on a passé peut-être 10 jours en studio je
crois. En tout à peu près ça doit être ça. On fait des prises live, en fait on enregistre vraiment la base des morceaux en live tous les trois dans la même pièce avec les amplis séparés pour vraiment pouvoir tout traiter différemment, et puis une fois que on a les bonnes prises live on fait tous les arrangements, ce qu'on appelle les overdubs, en fait on rejoue quelques parties par-dessus pour agrémenter la mélodie, on rajoute plein de petits détails en fait qu'on aime bien, mais c'est ce qui fait quand même qu'il y a une base assez solide en fait en termes de jeu entre nous, on retrouve un peu ce côté live amélioré on va dire.
Et c'est une musique qui est écrite ou alors vous l'avez dans la tête
Non, c'est dans la tête. Ouais. On sait pas écrire la musique. Donc
D'accord.
Non, on retient. On retient ce qu'on joue. C'est bien.
D'accord. Et le studio et la case d'enregistrement, c'est un plaisir. Ou alors il y a certains artistes qui me disent que c'est un peu un crève-cœur de fixer des morceaux, sachant qu'ils bougent un peu sur scène.
Moi, je suis content de les fixer parce que du coup, on peut passer à autre chose. C'est ce que je me dis. Quoi. Après, je peux. Non, c'est vachement bien. Moi, j'adore le studio. Quoi.
C'est super intéressant.
D'ajouter des trucs et tout.
Bon, puis si le morceau continue à bouger une fois qu'il est enregistré, moi, ça me pose pas de problème. Il y a quelques morceaux qu'on a repris du premier, un morceau en particulier. Qu'on a repris et qu'on a un peu modifié la façon de le jouer en fait, et je trouve ça assez intéressant de revisiter un petit peu aussi ces plus vieux titres d'une certaine manière, mais donc non, c'est pas un souci, moi je suis d'avoir fixé à un moment parce que c'était leur expression à ce moment-là et c'est très bien que ça s'arrête ici. On pourrait y passer des années en fait à travailler un morceau, mais où est l'intérêt, autant faire d'autres choses quoi.
Après, ce que semblait dire Francis aussi, le fait que quand le morceau est fixé, ça permet de passer à autre chose finalement, quoi.
Tout à fait.
Ou au morceau suivant, quoi.
Ouais, je pense que ça doit être chiant aussi que s'il reste toujours sur la même base, quoi. Si, c'est intéressant s'il évolue en permanence, quoi.
Ouais, s'il bouge sur scène quand même, ça vous.
De toute façon, naturellement, les morceaux du premier, parce que le premier album date quand même de 2015, c'est pas super vieux, mais. On a quand même changé depuis, naturellement on les joue différemment sur scène déjà quoi, ils ont plus du tout la même tronche, on les joue plus comme on les jouerait maintenant si on les avait composés aujourd'hui quoi, et ça c'est ça qui est drôle aussi, avec des fois même sur scène je trouve d'autres, j'aime bien improviser dans les morceaux et des fois je fais des parties de guitare et je regrette je me dis merde ça aurait été bien sur le disque mais après c'est comme ça quoi, du coup le morceau il est figé et puis...
Non, puis on évolue aussi, enfin chaque instrument là, on s'est amélioré chacun de notre côté je pense, et puis du coup on n'envisage pas du tout les morceaux de la même manière, quoi.
Ouais. Donc, Geoffroy avait évoqué le premier album. On arrive, donc on fait l'ordre.
On continue à reculer. Ouais. On repart en 2015.
Donc, on arrive sur le premier album qui s'intitulait
Triceratops.
Voilà, merci. Et donc, on va écouter
la deuxième chanson, ouais, qui s'appelle Amore.
Et donc, c'est Don Amann. Amann sur Radio Canu avec le titre
Amore.
Et donc ça, je rappelle qu'on fait le voyage à l'envers.
Oui, tout à fait.
C'était sur votre premier album.
Premier album s'appelle Triceratops, qui date de 2015 déjà. Le temps file.
J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de souvenirs de. Par exemple, vous la jouez sur scène, celle-ci toujours.
Oui, ouais, c'est un des morceaux qu'on continue à jouer quasiment à chaque concert. C'est assez rare qu'on ne la joue pas. Ouais, c'est un morceau qui a un petit peu bougé, mais enfin qui reste assez fidèle quand même à sa version de base, mais il y a quelques trucs qui ont bougé. La partie de fin est plus longue maintenant, on improvise quand même pas mal dessus. Je me souviens absolument plus de la composition, non, par contre j'ai encore des souvenirs de... Enfin, j'ai pas mal de souvenirs du studio, la première session de studio. Ouais. Ça, à la limite, ça reste marqué. Après, c'est pas hyper... comment dire... précis, mais j'ai un bon souvenir de cet enregistrement. Ouais.
On peut aborder aussi la question de vos labels, parce que je crois que vous êtes sur plusieurs labels, on parlait...
Plusieurs labels, on a commencé avec Urgence Disque à Genève, donc qui est le label de... un label qui est basé à l'usine, dans la salle de Genève. À chaque fois, de toute façon, c'est une histoire de rencontre. On y avait joué, je sais plus en quelle année, 2016. Et puis après le concert, en fait, Damien donc, nous avait proposé de sortir le prochain sur donc Starving sur son label. Et puis on a réitéré pour le troisième. Et puis depuis, on avait rencontré donc sur Dijon Last Disorder. Et puis à Reims, pareil, au moment d'un concert à Reiki Records. Donc, et puis ça s'est fait tout à fait naturellement, une proposition en fait au moment après un concert. Tout simplement, est-ce que si vous faites un prochain disque, ça vous dit de le sortir sur le label, puis nous on est bien contents, on a dit oui. Et puis entre temps, on a rencontré, on avait joué il y a hyper longtemps avec un groupe qui s'appelle Labashida, qui est un groupe hollandais. C'était une des premières dates qu'on faisait à l'extérieur de Dijon avec le premier disque. Et puis en fait, on s'est recontacté depuis, et en fait, ils sont basés à Amsterdam et à Seattle. Donc c'est un tout quatrième label en fait qui s'appelle Presto Chango. Et qui fait un peu de la distribution et en Europe et aux États-Unis en fait, en passant des morceaux à la radio, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça fait 4 labels en tout.
4 labels.
4 labels, ce qui est pas mal.
Ah ouais, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas de label du tout.
Oui, mais c'est ça. Non, c'est une chance. Ouais. Très content d'avoir du soutien à ce niveau-là. Ouais.
On revient sur le premier album. On va écouter donc la chanson titre, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Donc, et c'est Triceratops et c'est Don Aman. Donna Mann avec le morceau Triceratops, le titre qui donne son nom à leur premier disque, donc Triceratops. Oui, on a une petite lacune, on n'a pas parlé des... Alors, c'est pas très radiophonique, mais j'invite les auditeurs à aller voir sur votre Bandcamp, notamment vos pochettes qui sont très originales et très belles. Vous voulez qui s'en occupe et je vous laisse en parler.
Et ben c'est la...
Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces pochettes? Je vous laisse le soin de le dire.
Donc c'est la sœur de Francis Arthur, Marie, donc qui s'occupe depuis le début de faire nos pochettes. Qu'est-ce qu'on peut y voir? J'ai pas très envie de les décrire parce que je trouve que c'est pas hyper. Non, c'est effectivement pas très radiophonique. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur les pages de Donna Mann, vous les verrez de façon, elles sautent un petit peu aux yeux. Ça nous a semblé assez évident dans mon souvenir de lui demander de travailler sur des choses parce qu'elle dessine depuis hyper longtemps. Donc nous moi j'aime toujours beaucoup aimer ce qu'elle faisait. Ça se passe comment en général? On lui donne une petite ligne directrice et puis
souvent j'ai des idées de dessin et puis je lui transmets et puis après elle me fait des propositions, enfin elle nous fait des propositions, mais c'est toujours mieux que ce que j'imagine à la base, donc c'est super bien. Et moi j'aime bien le côté vraiment crayonné, dessin. Je suis pas fan du média de la photo pour des pochettes. C'est vu et revu souvent. Enfin moi si je vais acheter un disque, ça m'arrive parfois, rarement, mais d'aller acheter un disque et de pas connaître le groupe, de juste choisir un disque selon la pochette. C'est un peu la surprise. Je vais jamais prendre un album qui a pour pochette une photo, quoi. Ça m'attire pas du tout. Mais voilà, à chaque fois il y a un petit pitch, je lui donne un petit peu des idées directrices, quoi. Et puis voilà, j'ai souvent une large palette de choix, quoi. Donc ça fonctionne super bien. Et puis du coup j'aime bien le côté, il y a une espèce de fil directeur depuis le début, parce que c'est toujours sur un fond blanc et on peut mettre les pochettes côte à côte et ça fonctionne bien, quoi. Donc non pas qu'il y ait une narration d'une pochette à l'autre, mais voilà, il y a un fil directeur, il y a un fil rouge, quoi. Donc il y a une espèce d'empreinte esthétique qui nous est propre maintenant avec ça, quoi.
Là on va se quitter c'était musique etc. avec Donna Mann, mais on va se quitter on va revenir sur le dernier album. Mm-hmm. Mais avant on va faire votre communication de façon un peu synthétique pour ceux qui ont écouté donc musique etc. deuxième partie depuis 11h, où on peut vous retrouver ou écouter votre musique, vous suivre.
On est sur nous on aime bien la plateforme Bandcamp. Il y a tous les disques en écoute libre, téléchargement libre aussi. On est sur les plateformes habituelles. Et puis sinon, on peut commander les disques sur le Bandcamp. On peut aussi venir les acheter quand on joue. On joue quand même souvent et puis on essaie de jouer un peu partout. Donc en plus, les disques sont pas chers.
On essaie d'inciter les gens à acheter en priorité le dernier sur les labels. Du coup, parce que nous, on a la chance de pouvoir les vendre en concert, mais les labels pas nécessairement. Donc, on a tendance à privilégier le Lazy's Order, Araki Records et puis
Urgence
Disque. Ouais. Et puis sinon, pour tout ce qui est information de concert, c'est une page Facebook classique. On a un Instagram aussi, tenu par Arthur. Et puis voilà, tout simplement.
D'accord, donc c'était musique, etc. avec Donna Mann. Rendez-vous sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. pour le podcast de cette émission et celle de la première partie. Et je mettrai les liens vers votre Facebook et vers votre Bandcamp. Donna Mann. Et donc on va se quitter sur un dernier morceau. Je vous laisse le soin de le présenter.
On va passer Monster Lock, qui est le titre éponyme du coup du dernier album. Voilà.
Voilà, c'était musique, etc. avec Donna Mann.
Oui, merci.
À bientôt, Donna Mann.
Salut.
voilà, c'était musique, etc. avec Don Aman. Rendez-vous sur les blogs de Radio Canu et la rubrique musique, etc. pour le podcast de cette émission. Générique. Je vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu.